Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, l'After qui continue avec vous tous pendant cette période sans foot, uniquement sur RMC, à la radio, vous le savez bien sûr, l'After. L'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense, tout va toujours en radio-travail avec Daniel Riolo dans sa salle à manger. Salut Daniel.
Salut tout le monde.
Pierre Ducrot dans sa cuisine, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Jérôme Roten sur son canapé, salut Jérôme.
Salut Gilbert, dans mon fauteuil aujourd'hui.
Ah, changement de position.
Ouais, j'avais un peu mal au doigt.
T'es un déglingot en fait.
Pourquoi? Ah oui, je suis un malade. T'imagines là, il doit y avoir un mètre d'écart entre le canapé et le fauteuil. C'est énorme.
Je précise que Julien Cazard, dont on rejoindra tout à l'heure à 23h40. Oui, Daniel?
Moi, j'ai peut-être fait un truc un peu, une tentative un peu déglingot aujourd'hui dans les activités de confinement.
Qu'est-ce que t'as fait?
En fait.
T'as fait du riz.
De quoi t'as dit pardon?
T'as fait du riz.
Non. Quand t'es confiné longtemps comme
parce
ça.
Parce que le bon riz, il vient pas d'Italie, hein.
Si, bien sûr.
Ah non.
Si,
justement. Ah bon, le bon riz vient d'Italie aussi, d'accord.
Évidemment. Non. Ah, ouais. Ah si. Ben, encore une fois, je vais être obligé de vous apprendre quelque chose. Mais bref, c'était pas de ça dont je voulais parler.
Le risotto, pas le riz.
Ah si, le riz de risotto, le Gallo, la marque extraordinaire.
Ouais, c'est vrai que les fameuses rizières d'Italie sont très connues. Moi, je me souviens.
Et tu ne les connais pas, les rizières italiennes. Donc, tu n'as pas vu ce magnifique film qui s'appelle Ria Mère, un film des années 50. Bon, bref, c'était pas de ça dont je voulais vous parler.
Les meilleurs nems,
c'est en italien.
Les meilleurs nems, c'est plutôt vers Bari ou vers la Toscane?
Ça n'a rien à voir. Pourquoi le riz, tu le relis forcément à la gastronomie?
Plutôt
à
Palerme.
Rien à voir.
Plutôt à Palerme, oui, il a raison, Jérôme.
Le riz, d'ailleurs, pour le risotto, excuse-moi, un bon risotto. Bon, bref, peu importe.
Daniel, le film pour le voir, pour le regarder, c'est quoi? Le titre est en français, c'est Riz Amer.
Ouais, rien, mais c'est un classique du cinéma italien des années 50. Bon, et j'ai peut-être fait un truc un peu déglingo, qu'il fallait bien que ça arrive à un moment quand t'es enfermé chez toi pendant super longtemps. Mm-hmm. Vous voyez pas ce que ça peut être?
Bah...
À un moment, tu te regardes dans la glace et tu te dis, bon, toi, Gilbert,
tu t'es rasé.
Tu peux pas. Non. Toi, Gilbert, ça peut pas te concerner. Mais à un moment, il faut bien tenter un truc.
Tu t'es rasé le crâne?
Non, mais j'ai tenté de me couper les cheveux.
Bah oui, t'es coupé les cheveux toi-même.
T'es rasé les cheveux. C'est une cata. C'est une cata, non?
Mais non, mais j'ai essayé parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. De toute façon, je suis pas prêt de revoir un coiffeur.
À la tondeuse.
À la tondeuse, j'ai essayé un peu, ouais.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné?
Le même niveau.
Bah, j'ai raccourci, sauf que j'en ai foutu partout. Ça avait fait un bordel sans nom, parce que j'avais pas du tout prévu que ça tombe dans tous les sens. Donc, voilà.
Là, tu t'es fait engueuler par maman.
Non, pas du tout.
Tu pensais qu'ils allaient où les cheveux, du coup?
Bah, comme je ne l'avais jamais fait, c'est.
Direct dans les chiottes, en fait, Pierrot, arrête.
Non, mais j'ai pas anticipé ça. J'étais tellement concentré sur le fait de ne pas me rater que j'avais pas prévu toute l'organisation autour, quoi.
Bon, messieurs.
C'est après que j'ai vu qu'il y en avait partout. J'ai dit, merde.
Après ces aventures extraordinaires, Jérôme qui change de place, Daniel qui se coupe les cheveux. L'événement ce soir dans l'After, c'est Philippe Pia, le coprésident de l'UNFP, président de la FIFPro, donc le syndicat mondial des joueurs de foot. Et il sera avec nous d'ici une dizaine de minutes. On débattra ensemble de la situation de nos footballeurs de Ligue 1, de leurs contrats, des mesures mises en place par les clubs. On vous attend bien sûr au 32-16 pour débattre ensemble. À 22h45, Bordeaux, programme comme promis. On va compléter notre débat de lundi concernant le quart de finale de Ligue des Champions d'il y a 10 ans face à Lyon. Et puis à 23h, on va enfin ce soir faire notre sujet souvenir des moins de 30 ans. On a reçu plus de 200 appels au standard. Rien que pour ce sujet dans ces dernières heures. Max est complètement débordé. Le 32-16 donc sera réservé aux moins de 30 ans après 23h. Pourquoi on fait ce sujet? Parce que à l'occasion du décès de Michel Hidalgo la semaine dernière, on s'est remémoré les grands moments de l'histoire du foot des années 80, fin des années 70 et des années 80. Et tous nos jeunes afteriens nous disaient « Ouais, mais nous, on n'était pas nés, nous, on n'a pas vécu ça. Nous, nos souvenirs, c'est 2006, nos souvenirs, c'est 2010, etc. » Donc on s'est dit « Bah, attends, faut qu'on partage ça avec vous. » Donc c'est ce soir, après 23h. Le 32, c'est ouvert pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio, évidemment. Nos applis RMC et RMC Sport avec les podcasts toujours en ligne, bien sûr, sont dispo. Ah oui, Direct Studio, vous allez sur l'appli, vous appuyez sur la petite radio en haut à droite. Et là, vous pouvez envoyer vos messages. Avant d'accueillir Philippe Pia, il y a quelques infos du jour à partager, messieurs. Notamment une info mercato intéressante. Thomas Meunier a donné une longue interview à la RTBF. Et Thomas Meunier dit qu'il veut rester à Paris. Alors, y a-t-il un coup de bluff quand on... Bon, depuis quelques semaines, tous les signaux allaient plutôt dans le sens inverse.
Ils veulent tous rester à Paris. Ils veulent tous rester à Paris.
Ah, c'est bon. Alors, je vais d'abord vous dire tout ce qu'il a dit, et après, on essaiera de décrypter. Il dit... Thomas Meunier, tout le monde sait que mon objectif principal est de rester à Paris, mais pour l'instant c'est calme, on verra d'ici la fin de la saison. Il dit un joueur libre international dans l'équipe numéro 1 mondiale, la Belgique, hein, et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, dit Meunier, qui a donc des arguments de vente le concernant.
Il se fait sa promo.
Il se fait sa petite promo, exactement. Et puis il dit, on a beaucoup parlé de moi à Dortmund, mais c'est pas vrai. J'ai vu des articles qui me lient avec Tottenham, l'Inter ou Dortmund. C'est faux. Voilà tout ce que dit Thomas Meunier aujourd'hui.
De toute façon, la situation est telle aujourd'hui que beaucoup de choses qui ont été dites ou qui étaient sur le point de se faire peuvent maintenant un petit peu changer. Mais toujours est-il que les discussions... effectivement, maintenant, la situation est telle que tout tombe à l'eau.
Moi, j'étais persuadé que ce n'était pas vrai non plus.
Mais ça
sortait trop dans le bon timing avant ce match-là pour que ce soit quelque chose de vrai.
Écoute, moi je maintiens que les contacts ont été très avancés. Maintenant, effectivement, vu la situation, là, sur les transferts, on peut plus du tout s'avancer. Enfin, là, en tout cas, de la maison, on a zéro bille. Hein.
Jérôme, Pierre, toi qui es dans le business, là, qu'est-ce que t'en penses?
C'est statu quo sur tout. Comme je vous l'ai dit, il y a des contacts. Voilà, nous on est sans arrêt avec les clubs. J'en ai encore eu moi aujourd'hui pour mes joueurs. Et il y a beaucoup de clubs qui te répondent que oui, ça peut peut-être leur plaire. Oui, ça peut peut-être faire ceci, mais que pour l'instant ils sont suspendus à une seule chose. C'est la suite, la reprise du championnat, droit de télé. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avant.
T'imagines comment veux-tu discuter business aujourd'hui avec en plus non seulement la situation, mais tout ce qui se greffe à cette situation, et notamment cette histoire de Canal qui veut plus donner l'oseille. Et là, je vais te dire, carrément sous la gorge, quoi.
Il y a même pas que ça, parce que tu typiquement, moi aujourd'hui, tu vois, un joueur libre au 30 juin, ça représente zéro en transfert. Tu peux imaginer qu'un club veuille aujourd'hui signer un protocole d'accord avant tout le monde pour doubler un peu les autres et que ça ne représente pas financièrement quelque chose d'un risque. Sauf que le protocole, tu vas le mettre quoi? Bah comme d'habitude au 1er juillet. Mm-hmm. Sauf qu'au 1er juillet, est-ce que la saison sera commencée? Elle sera
absolument
pas commencée. Faudra signer des protocoles.
Il y a plein de problèmes.
Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est trop flou pour pouvoir faire quoi que ce soit, quoi.
Donc en gros, Meunier, ce qu'il dit aujourd'hui est peut-être vrai, mais dans 15 jours, ça peut être totalement l'inverse, en fait.
Oui, absolument.
Pour lui, on le souhaite. Puis ce sera bon signe pour tout le monde.
Exactement.
Il ne parle pas dans l'article de son, l'histoire de son carton jaune là, au match aller à Dortmund?
Non. Vraisemblablement, enfin, en tout cas, ce n'est pas été retenu dans la dépêche AFP qui relate cette interview. Donc, voilà.
Écoute, ça aurait été bien qu'il en parle.
Bah écoute, alors on va tout à l'heure avoir Philippe Pia, mais on a des nouvelles concernant l'affaire des droits télé en France, enfin des nouvelles. Canal Plus s'était positionné donc en disant on paiera pas, et aujourd'hui c'est Bein qui suspend également son paiement. Alors en fait, Bein doit encore un versement de 42 millions à verser le 5 avril, donc là à la fin de la semaine là, et ils ont dit non, on paiera pas comme Canal. Voilà.
T'imagines évidemment dans quel état sont les clubs et la Ligue aujourd'hui quand ils entendent ça. Ils ont des arguments pour ne pas payer, mais la Ligue rétorque qu'au minimum, il faut payer au moins ce qui a été joué, ce qui a été diffusé. Et même ça, les diffuseurs sont pas pour l'instant disposés à le faire. La discussion, t'as évoqué les sommes, hein. Mais
on est à 110 plus 45, hein, donc 155 millions de débours pour la Ligue, hein, et pour les clubs.
Je me souviens quand tu disais récemment, ouais, mais s'ils payent pas, ils vont affaiblir le produit. Écoute, j'ai l'impression de ce que je sais que le diffuseur aujourd'hui affaiblir le produit. De toute façon, il s'assoit dessus. Sur la qualité, que l'important c'est de toute façon de continuer à diffuser, que même si effectivement comme tu le dis ça affaiblit le produit, l'économie substantielle que ça leur fait là, ils s'en foutent en fait, et puis ils disent on verra, l'important les gens seront peut-être pressés de revoir du foot et que la qualité tout le monde va s'asseoir un peu dessus, quoi.
Cela dit, voilà. Ça c'est vrai, même à huis clos les fans de foot en regarderont, hein.
Voilà.
Oui, mais le spectacle.
C'est sûr que ce sera pas pareil, ça.
Mais il n'empêche que, alors, il y a ce que ça a provoqué, c'est pour le coup ce que je dénonce assez souvent, c'est-à-dire le manque de solidarité chez tous les présidents et tous les clubs. Alors là, pour le coup, la décision des diffuseurs, ça les a tous complètement ressoudés là. Tous ils sont vent debout contre ça, à se demander comment ils peuvent se dépêtrer de ce truc-là, finir la saison pour que les diffuseurs payent absolument. Donc du coup, l'idée de la saison blanche que certains avaient évoqué, bah là maintenant, non, il faut absolument finir, ouais, parce qu'il faut absolument l'oseille des droits télé.
Alors voilà, dans l'optique
on
de finir,
saluera aussi la solidarité des diffuseurs quand même, qui payent même pas ce qu'ils devraient de.
Oui, bah c'est sûr que.
Alors ça, Pierre, effectivement, tu fais bien de le dire, c'est une pierre ouais, dans le jardin de la ce qu'on a appelé à un moment la grande famille du football. Et tu sais qu'il y a une sorte de petites rumeurs qui pourraient monter et qui pourraient entraîner le client, donc l'abonné, à dire bah, écoutez, vous voulez pas payer les droits télé, bah, alors remboursez-nous les abonnements.
Mon abonnement, bah, bien sûr.
Remboursez-nous les abonnements. Voilà.
Bien sûr. Pourquoi pas.
Bon. En tout cas, dans cette optique-là, et on pourra reposer la question à Philippe Piat, aujourd'hui, l'UEFA a acté a demandé aux ligues de terminer les championnats avant le 3 août. Voilà, ça c'est l'UEFA aujourd'hui, c'est la Fédé néerlandaise qui a révélé ça. Donc c'est vrai qu'il y avait des réunions encore aujourd'hui à l'UEFA. Donc il a été demandé à ce que ce soit fini le 3 août pour jouer ensuite, j'ai bien dit ensuite, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Voilà ce qui a été.
Ça, c'est l'idée pour l'instant. Ouais.
Voilà, c'est pas imposé par l'UEFA. C'est aujourd'hui une sorte de, comment dirais-je, une recommandation forte, quoi, en fait, de l'UEFA auprès de toutes les ligues européennes. Bon. C'est comme ça change un peu tous les deux jours.
C'est un petit peu difficile d'avoir une idée là-dessus. Alors, juste un dernier truc que je peux ajouter quand même, c'est que il y a en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'optimisme, mais il y a dans l'idée à la Ligue et chez les présidents qu'il y ait une sortie de confinement pour fin avril. Que donc, derrière, une reprise mi-mai, c'est quelque chose, c'est une hypothèse de travail. Voilà. Mmh. En tout cas, on y croit. À la Ligue, on y croit. Certains présidents de clubs y croient. Sortie de fin de confinement, tu sais, en plus, le Premier ministre a dit tout à l'heure qu'elle allait être un petit peu différente selon les situations des uns des autres. Il se pourrait que pour fin avril, ça concerne les sportifs et que donc après, mi-mai, on pourra assister à une reprise des compétitions. Je dis pas que ça va arriver, hein. C'est ce qu'on espère. Et il y a un petit vent d'optimisme pour que ça se passe comme ça. Non, attention, hein. On marche sur des œufs, sur tous ces dossier-là.
Alors, à suivre. Alors, autre info du soir que je voulais. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler hier soir, mais le PSG a été averti par l'UEFA pour conduite inappropriée de l'équipe. Vous savez, le fameux chambrage après le match contre Dortmund. Position du Lotus.
Je savais pas qu'on pouvait des conduites inappropriées là-dessus. Dans ces cas-là,
c'est incroyable.
Tout le chambrage des gens de Dortmund et tout. Oui. Alors, on fait quoi avec?
Exactement. Donc, avertissement.
L'intervention du directeur sportif.
Non, mais c'est ça. Ce qui a été fait par voie officielle sur dingue, Twitter ça. Du club, même.
Les Twitter du club et tout. S'il y a des. Ouais, là.
Bah, l'UEFA n'aime pas le chambrage.
Les community managers.
Je propose qu'on leur envoie Jérôme Antenne, qui leur explique le concept.
Ouais, je vais leur expliquer le concept. C'est pas mon concept, c'est le concept du football.
Bah oui, c'est un peu.
Si l'UEFA commence à sanctionner parce que les mecs se chambrent, ben dans ces cas-là, t'as pas fini, hein. T'as pas fini, comme dit Daniel.
C'est gentillé, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de mots, c'est gentil.
Et sur le match aller, en fait, ouais, sur Dortmund, ils ont mis des sanctions aussi?
Non, bah là, visiblement, non. Il y a juste Emre Can.
D'accord. Incroyable.
Qui a été sanctionné.
Bon, bah voilà, c'était les infos du jour. C'est vrai que c'est un peu grotesque. Enfin, voilà, je voulais quand même vous le signaler. C'était
Apollo Bragner qui est derrière ça.
C'était hier. C'est un coup de polo, peut-être.
C'est un coup de polo. Qu'est-ce qu'il fait, polo?
Peut-être les Allemands ont pas.
Depuis que tu l'as envoyé chier, il se repose, je crois.
Je ne vais pas envoyer chier, moi. Jamais j'ai envoyé chier.
Ah, mais ça va.
Et puis, Hier, on a fait une émission spéciale consacrée à Pape Diouf. Aujourd'hui, comme nous l'a dit d'ailleurs Christian Cataldo hier soir, plusieurs banderoles dans les rues de Marseille en hommage à Pape Diouf, à différents endroits stratégiques de la ville, à côté de la gare Saint-Charles notamment. Et donc, les groupes de supporters qui se sont tous mobilisés là pour accrocher des banderoles dans la ville en hommage à Pape Diouf, bien sûr. Je voulais vous le signaler. Christian Cataldo nous avait dit hier que ce serait fait et ça a été fait très très rapidement parce que dès ce matin, les banderoles étaient en place dans Marseille. Dans quelques instants, Philippe Piat, le 32-16 ouvert, bien sûr. C'est l'occasion de parler. Philippe Piat, attention, hein, il est aux manettes du syndicat des footballeurs français depuis plus de 30 ans. Donc, il connaît tous les dossiers par cœur. Et évidemment, nous, on a eu de nombreux débats depuis quelques jours maintenant, depuis le début du confinement, sur la suite et sur ce qui se passe au niveau des contrats des joueurs, sur le mercato, sur la fameuse date butoir du 30 juin des contrats. Ben voilà, on va pouvoir éclaircir tout ça avec Philippe Piat tout de suite. Et le 32-16 est ouvert pour débattre dans l'after. N'hésitez pas à nous appeler.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten est là, Pierre Ducrot est là. Nous avons au minimum donc parmi vous trois deux anciens membres de l'UNFP. Eh oui, c'est vrai.
Ouais. C'est vrai.
Jérôme et Pierre, Daniel, bon, évidemment, tu ne l'as pas été. Messieurs Rotten et Ducrot, accueillons votre président. Philippe Piat est avec nous dans l'after. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir
Philippe. Salut Philippe.
Bonsoir.
Salut.
Bon, oui, je disais, vous avez des anciens membres de l'UNFP parmi nous, Philippe Piat, en l'occurrence, qui connaissent bien l'UNFP et la FIFPro, puisque je rappelle que vous avez les deux casquettes, hein, UNFP et FIFPro.
Les annonces. Chaque année, Gilbert, oui. Chaque année, je pense que c'est pareil pour Jérôme, l'UNFP. Moi, je reçois un petit message au moment de mon anniversaire pour me souhaiter bon anniversaire.
Oh, c'est sympa ça.
Et donc, comme on ne peut pas répondre, forcément, c'est un SMS, bah, je remercie Philippe, voilà, et qui remerciera l'UNFP. Ce sont des attentions importantes pour la famille du foot.
D'accord.
Mais dites-moi juste une question. Quand vous êtes retraités, les gars, il n'y a plus à payer d'adhésion à l'UNFP, c'est fini ? Ou ça continue ?
Ah oui.
Non, c'est fini.
Non, je sais pas, parce qu'il y a l'UNFP a des formations, enfin, a des aides post-carrière et tout, donc peut-être qu'il pourrait y avoir une cotisation qui continue, je sais pas. C'est pour ça que
je peux rectifier.
Oui, Philippe.
Je peux rectifier que nous avons des adhérents qui ont arrêté de jouer depuis pas mal de temps, mais qui restent sympathisants de l'UNFP.
C'est-à-dire qu'en fait, ils versent leur obol par solidarité ?
Oh, c'est pour par amitié. En même temps, ils ont les infos qui peuvent les intéresser dans le microcosme de foot.
Mais ils continuent à payer la cotisation, hein, Philippe ?
Oui. Bon, c'est pas élevé. On va passer
pour deux radins.
c'était pas le but.
Moi, je savais même pas que c'était possible d'ailleurs.
Ah, non, moi non plus, je savais pas. Donc, dès ce soir, je m'adhère.
Le mois prochain, on le fait.
Alors, Philippe, on est ravis de vous avoir pour parler de toutes les questions qui font débat depuis quelques semaines maintenant. Alors, je donnais les infos du jour tout à l'heure. Donc, l'UEFA suggère aux ligues de terminer le championnat avant le 3 août. Tout ça pour terminer ensuite Ligue des Champions et Ligue Europa. Ça, ce sont donc les décisions, les délibérations du jour, les infos d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, c'est bien qu'il y ait une date de fixer, même si on peut imaginer que peut-être elle sera modifiée, mais d'avoir une date fixée, ça permet de faire des prévisions, d'avoir des hypothèses, et c'est un peu mieux que d'être dans le brouillard et de ne pas savoir quand ça va se terminer. Mais cela dit, il faut savoir quand est-ce que ça va commencer, et ça, on ne le sait pas. Mais bon, ça permet quand même de situer le laps de temps qu'il nous reste pour terminer le championnat.
Alors, les mesures de chômage partiel qui s'appliquent aujourd'hui à l'ensemble de la Ligue 1, est-ce que l'UNFP y adhère ?
Ben, l'UNFP y adhère parce que, alors, ça dépend sur quel plan on se place. Si on se place sur le plan technique, on y adhère parce qu'il vaut mieux que les joueurs soient en chômage technique pendant le confinement. Et puis on y adhère aussi parce que les conditions économiques qui sont la suite d'un chômage partiel, elles sont relativement bonnes. Et donc on est en fait d'accord avec ce système-là.
Voilà, on rappelle que c'est 84% du coût, hein, du salaire qui est versé aux footeux, ce qui effectivement a un impact Bon,
Monsieur Pia, c'est tous les clubs sont passés au chômage partiel. Il y a des clubs, j'ai entendu dire que quand même certains avaient du mal à, dans certains clubs, certains joueurs avaient refusé ou ne veulent pas. Il y a une unité sur ce dossier ou des cas différents.
Alors, de mon point de vue, ce qui est complexe, c'est pas forcément de la faute des joueurs. Parce que nous, par exemple, l'UNFP, on a fait une analyse il y a quelques semaines en estimant que, compte tenu que la fin de saison allait être compliquée avec l'intersaison, les vacances des joueurs, il nous a semblé meilleur de mettre les joueurs en congé pour ne pas avoir à payer deux fois les congés. Et donc, il y a un certain nombre de clubs qui l'ont fait, d'autres n'ont pas fait. Ce qui fait qu'il y avait une distorsion entre ceux qui étaient en chômage partiel et ceux qui étaient en congé. La suite nous a donné raison, puisque maintenant que le confinement s'est poursuivi, il est mieux que les joueurs soient en chômage partiel, parce que ils ont le moyen de se tenir en forme en faisant des entraînements personnels.
Est-ce que vous avez entendu en France, on en a débattu un petit peu entre nous cette semaine et on n'avait pas beaucoup d'écho de ce genre de choses. On a vu par exemple dans d'autres pays que des clubs avaient pris, ou plutôt des joueurs dans les clubs avaient pris les initiatives de baisser les salaires, de diminuer ici ou là, initiatives personnelles. Vous avez eu vent de ce genre de choses dans les clubs français. Je vous ai entendu dire que vous souhaitiez pas que ce soit la seule variable d'ajustement, les salaires dans la crise qu'on traverse.
D'abord, je voudrais préciser que les informations qui circulent sur un certain nombre de pays et d'actions de joueurs, ce sont des bruits, des rumeurs, qui, pour la plupart du temps, pour ceux qui connaissent le sujet, ne sont pas tout à fait rapportées comme elles devraient l'être, c'est-à-dire elles sont ou amplifiées ou modifiées. En tout cas, en ce qui concerne la France, les joueurs déjà français, comme ils sont en chômage partiel, ils ont déjà, ce qui est certain, perdu 16% de leur salaire. Donc, ils n'ont pas eu besoin de faire quelque chose pour que leur salaire soit amputé. Mmh. Par ailleurs, et au moment où je vous parle, je ne peux pas vous donner des informations trop précises parce que nous sommes en discussion avancée avec les clubs pour arriver justement à... Et on va avoir une réunion début de semaine prochaine pour valider un accord que l'UNFP à négocier avec des représentants des joueurs et qui permettra de faire voir que les joueurs français aussi auront une action très importante au niveau des salaires.
Là, vous parlez au niveau national, du coup, hein, pour tous
au
les clubs
français,
pro,
oui.
Pour tous les clubs pro français, en l'occurrence.
Alors, pour être tout à fait, moi j'aime bien être clair, on est en train de trouver un accord politique entre l'UNFP et les représentants des clubs. La difficulté qui peut exister, c'est que ce sont des recommandations qu'on peut faire parce qu'il y a des lois françaises qui obligent d'avoir des accords. Et donc, ça veut dire que peut-être quelques
les
joueurs,
à le faire,
très peu, nous pensons, peut-être ne seront pas d'accord, de la même manière que des clubs ne seront pas d'accord et voudront essayer d'obtenir des conditions encore plus favorables. Donc, mais l'accord politique qu'on va faire permettra au club de passer le mauvais moment de trésorerie, de le passer un peu plus facilement.
Et vous,
qu'est-ce que... prochaine. Non, mais c'est important ce que vous nous dites, là, Philippe Pierre, on va suivre ça très près, évidemment.
Et vous, si je peux me permettre, Daniel, Pierre. C'est exactement ce que j'essayais de vous dire, je ne sais plus si c'était dimanche soir ou lundi, peut-être même, c'est exactement ce qui se passe, et Philippe a raison de le préciser, quand on lit une information sur notamment en Espagne, que les clubs se sont mobilisés et que ça y est, c'est fait, etc., c'est faux. Il y a des réunions de fête, exactement comme là, Philippe en a prévu.
Attends, le Barça a communiqué hier, quand même.
Ouais, mais ils communiquent, mais rien n'est encore décidé exactement concrètement. C'est ça.
Sur les 70% de salaire en moins.
Les joueurs de Dortmund, les joueurs de la Juve et ceux de Dortmund et du Bayern.
Attention, la Juve, Daniel, juste petit. Attendez.
Ce ne sont pas des vraies infos.
Alors, non, mais la Juve, il faut être précis. Parce que la Juve, je parle. Parce que Philippe.
C'est des reports de trésorerie.
Voilà. C'est-à-dire que la Juve, ils ont dit, on fait une croix sur trois mois de salaire, mais le club a dit, on vous les versera sur la saison prochaine.
Plus tard.
Voilà, ouais, donc en fait, il faut une croix temporaire, c'est-à-dire que c'est juste un report de salaire.
Ouais, c'est pas un effort. Tout comme en Espagne, et c'est pour ça que ça négocie un peu plus longtemps, où effectivement c'est un gros effort, parce que 70% de ton salaire, c'est quand même quelque chose qui représente une part importante de ce que tu gagnes. C'est en négociation, parce que après, si le championnat reprend et que les droits télé tombent, etc., bien entendu qu'il faut récupérer ce que les clubs vont récupérer derrière
à
leur tour.
Tout de même, Philippe Pierre, il y a quand même un truc.
Si jamais vous êtes en catastrophe, on va être
encore fait.
Mais moi j'ai l'impression que ça fait une semaine que tu luttes contre l'idée que des joueurs pourraient avoir une belle initiative.
Non,
je comprends pas.
Non, c'est parce que tu n'écoutes pas. Non, c'est parce que tu n'écoutes pas bien. Okay. Je vais te répéter encore une fois. Je te dis juste qu'en France, on n'est pas plus mauvais là-dessus, ou on n'est pas plus radin qu'ailleurs, et les choses se mettent en place. Depuis une semaine, je te dis la même chose, comme ailleurs. Pas plus vite, pas plus doucement. C'est exactement ce que je te dis.
J'attends de voir les grands gestes du football français. Pour l'instant, j'ai vu des présidents pas d'accord, mais qui viennent maintenant de se mettre un peu d'accord quand ils ont vu que l'oseille des droits télé allait pas rentrer. J'ai vu des télés qui veulent pas payer les droits, et j'ai vu aucun geste.
Comme ailleurs.
J'entends. Non, en Angleterre, non, par exemple.
Tu rigoles, Daniel. En Angleterre, je te l'ai dit aussi lundi. Alors après, c'est que tu retiens pas. Alors à ce moment-là,
les deux diffuseurs vont payer. C'est en Espagne qu'ils veulent pas payer.
Les diffuseurs ont déjà payé en Angleterre, Daniel. Voilà, ils ont déjà payé. L'argent est à la Ligue. Mais sauf que là, ils sont en train de redemander une partie des 800 millions qu'ils ont donné. Donc c'est exactement la même chose, sauf que la Ligue a l'argent. C'est la différence qui est une grosse différence.
Alors attendez, profitons de la présence de Philippe Pierre. On débattra entre nous après, les gars. Mais là, Philippe est avec nous, donc profitons de sa présence. Philippe Pierre, la fameuse date butoir du 30 juin, qui est une date évidemment importante pour tous les footballeurs en fin de contrat. Aujourd'hui, quelle est la position de l'UNFP là-dessus? Les présidents de club disent oui, bon, si on fait un avenant, ça passera. On fait un avenant pour tout le monde de 15 jours, d'un mois si besoin. Qu'est-ce que vous en dites, vous, à l'UNFP?
Alors d'abord, je voudrais dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que c'est nous, il y a déjà plus d'un mois, qui avons analysé le fait que ça serait très problématique de pouvoir finir au 30 juin. Et nous avons promis et engagé le processus pour que la saison puisse se dérouler au-delà du 30 juin. Il y a quelques personnes qui se sont accaparées cette décision, mais elle nous appartient à nous, l'UNFP. Alors après, le prolongement de ça, c'est non seulement qu'on puisse finir la compétition cette saison, avant le début de la saison prochaine, et on a bien sûr été partisans de pouvoir poursuivre les contrats des joueurs le temps nécessaire. Quelle est l'analyse qu'on a faite? C'est avec l'accord qu'on est en train de mettre en œuvre, on est confronté à quoi? Sur l'ensemble des joueurs, il y a à peu près 80% de joueurs qui sont encore sous contrat avec leur club l'année prochaine. Ça veut donc dire que ceux-là, il n'y a pas de problème particulier, puisqu'ils sont déjà sous contrat pour 2020-2021, mais ils continuent jusqu'au 3 août, comme le souhaite l'UEFA. Sur les 20% restants, il y en a, je dirais aussi, 80% qui vont suivre les recommandations que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de poursuivre jusqu'à la fin du contrat, du championnat, même si ça dépasse fin juillet. Il reste quelques-uns, 3 ou 4% de l'ensemble des joueurs dont on ne peut pas les obliger à jouer au-delà du 30 juin, parce qu'en France, il y a des contrats à durée déterminée. Le droit du travail permet ou oblige le respect des contrats, et on n'est pas à la place dans le pantalon de quelques joueurs qui diraient...
Donc là, les clubs pourront rien faire.
Normalement, ils pourront rien faire. La seule manière...
Sauf que les joueurs, là, ils vont passer pour les mercenaires ultimes, Philippe Pia, s'ils font ça.
Ben oui, mais bon, on ne peut pas avoir la prétention d'avoir 100% de personnes dans n'importe quelle profession qui soient
solidaires, quoi.
Comme un seul homme. Donc, peut-être que des joueurs ont déjà pris des engagements avec d'autres clubs et ils ne savent pas comment, à quelle sauce ils vont être mangés. Et donc, je vous ai donné les grands aspects, les grandes lignes. Et je pense que ça devrait être jugé comme étant positif.
Bon, voilà, si on arrive à 20% de joueurs quand même, Philippe, c'est beaucoup, moi je trouve. Oui, Pierre, vas-y.
Non, j'ai une question pour toi, Philippe. C'est la situation inverse aussi. On sait très bien que ça existe. Des joueurs qui sont inutiles à leur club parce que le coach ne les prend jamais dans un groupe, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont au placard et qui arrivent en fin de contrat.
Oui, t'as raison.
Est-ce que le club va considérer ces joueurs-là aussi?
J'attends la question, je vais y répondre. Normalement, c'est plus que normalement, c'est comme ça que ça se passera. C'est que les clubs sont obligés. Dans une décision politique de dialogue social, ils sont obligés de garder tout l'effectif. Tout le monde. Ils ne peuvent pas dire, tiens, les bons que je vais pouvoir vendre, je les garde, et les autres qui sont moins bons et que je ne peux pas vendre, je vais les mettre au...
Ce sera forcément un accord collectif.
Donc, c'est forcément tout l'effectif qui serait reconduit jusqu'à la fin du championnat des matchs, en fait.
Oui, c'est-à-dire que je prends l'exemple d'un Sertic à Marseille qui est au placard depuis des mois. Son contrat s'arrête au 30 juin. Si à l'OM il y a une reconduction d'un mois pour tout le monde, il y aura Sertic dedans, quoi. Voilà.
Ça me paraît normal. Hein.
Ce joueur tout le temps comme exemple, Gilbert.
Non, mais parce que c'est l'exemple. Ouais.
T'acharnes sur lui.
Là, c'est le premier qui me vient en tête. C'est pour ça.
Ouais, tu t'acharnes sur lui.
Philippe, est-ce que au niveau de la FIFPro cette fois, il y a une harmonisation européenne voire mondiale sur le traitement des joueurs qui est en discussion, ou alors c'est impossible à mettre en place vu les différentes législations du travail dans les différents pays?
Alors, la FIFA a eu une réunion récemment, hier ou aujourd'hui, et j'ai reçu tout à l'heure les préconisations. Les préconisations vont dans le sens que tout le monde souhaite dans le football, dans le microcosme du foot, c'est d'essayer que les championnats se terminent dans tous les pays. Ça, c'est la volonté première. Cela dit, la FIFA avance sur la pointe des pieds concernant le prolongement des contrats, parce que elle renvoie ou elle fait état des conventions collectives nationales, et dans les conventions collectives nationales, il y a des droits des employeurs et des employés qui font que la FIFA ne peut pas vraiment
imposer quelque chose, ouais.
Les contrats de travail qui existent dans un pays. Par contre, une fois qu'on a dit ça, la FIFA, elle est, disons que, elle a un moyen de sanction qui est de ne pas qualifier les joueurs qui seraient réfractaires en repoussant la période de transfert, ce qui fait que les joueurs qui seraient pas enclin à être souple dans la prolongation d'un mois ou deux pour terminer le championnat, eh bien, la FIFA a derrière la tête de ne pas autoriser la qualification pour un joueur dans un autre club pendant cette période. Donc, bon, ça ne nous plaît pas que les choses se passent comme ça par des menaces ou par des réglementations qui sont un peu dictatoriales, mais cela dit, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, je pense que à la fin du fin, ça va bien se passer.
Bon, c'est vraiment intéressant. On va finir donc sur cette proposition. Donc, on attend le début de semaine prochaine. Donc, je répète ce que vous nous avez dit. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, une action d'envergure des footballeurs français. Pour faire un geste, quoi. Hein, finalement, on peut le résumer comme ça. Un geste financier important.
C'est ça. Mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit les seuls salaires des joueurs la variable d'ajustement. Il faut aussi que les pouvoirs sportifs nationaux, donc français, cherchent aussi des solutions annexes.
Et ça peut être quoi, les solutions annexes, monsieur?
Exonération de charges, par exemple.
Il y en a beaucoup, des solutions annexes. Il y a, d'abord, si les matchs vont au bout, c'est-à-dire que si les 38 matchs se jouent, c'est de récupérer les droits télé qui sont suspendus. C'est aussi, compte tenu que l'année prochaine, les droits de télé vont être de manière très importante plus élevés. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser une partie, 10%, 20% des droits télé de l'année prochaine pour solder la trésorerie de l'exercice, de la compétition actuelle 19-20. Et puis, ça n'obérerait pas tellement la situation intérieure, puisque on a bien vécu les années qui viennent de se passer avec des sommes de redevances télévision qui seront de toute façon, même si on débloque une partie des droits télé de 2020, 21 et 20 jusqu'en 24, et donc on peut continuer à faire des exercices sportifs avec le solde des droits télé, donc qui sera amputé d'une partie pour terminer la trésorerie de 19-20.
Merci beaucoup Philippe Piat pour ces explications.
J'avais une dernière question.
Vas-y.
Non, c'était juste pour revenir à tout ce problème d'argent qui pourrait ne pas rentrer. Dans quelle mesure vous pouvez intervenir quand on entend que des clubs peuvent être sérieusement en péril? Si on dit club en péril, ça veut dire joueur à l'intérieur du club en péril également. Comment l'UNFP peut se positionner dans ce qui oppose aujourd'hui la Ligue et les diffuseurs qui veulent pas verser l'oseille des droits télé? Vous avez votre mot à dire, vous pouvez intervenir, vous pouvez influer.
Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est déjà faire en sorte que les joueurs fassent les 38 matchs, parce que normalement ils sont payés pour faire les matchs de championnat, et dans l'hypothèse où la compétition irait à terme, donc les joueurs auraient fait ce pour quoi ils sont payés. Mais sinon, on a déjà accepté le principe de poursuivre le championnat plus loin. On a accepté le principe de différer les congés, parce que les congés ne vont peut-être pas pouvoir être donnés. On a déjà imaginé que la trêve hivernale soit de manière exceptionnelle annulée pour pouvoir avoir une saison 2020-2021 dans l'hypothèse où elle reprendrait tardivement à cause du championnat actuel. En position d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour que les choses s'arrangent. Mais cela dit, par exemple, le problème va être très compliqué à cause du trading joueur, parce que les clubs, c'est surtout ça qui les gêne. C'est, ils se disent qu'ils ne vont pas pouvoir vendre les joueurs comme ils auraient imaginé. Mais il faut se rappeler que ça fait un moment que nous énonçons, moi-même le premier, que le système des transferts, c'est une bulle financière qu'on a dénoncée qu'elle allait un jour exploser. Alors on ne pensait pas que ça pouvait être pour des raisons sanitaires. Mais le fait de faire des contrats de travail qui sont en fait des actifs financiers, on n'accepte pas ça. Ça se fait, mais ceux qui le font, c'est eux qui prennent la responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des joueurs.
Messieurs, une dernière question collective. Quel est le club où Philippe Piat joue le plus de matchs?
A joué
le plus de matchs. Jérôme, Pierre, Daniel.
Faux.
Strasbourg, bien sûr. Enfin, et Daniel. Voilà,
si tu poses la question, je suis con.
Mais
aussi.
Quand même, j'ai une info à vous donner, si vous voulez bien.
Oui.
On parle de dépasser le 30 juin. Je vous rappelle qu'en 1968, avec les événements de 68, et quand je jouais à Strasbourg, il y avait des barrages et on était barragistes. Et donc, comme le championnat a été arrêté pendant presque 2 mois, les barrages ont eu lieu entre le 1er juillet et le 15 juillet. Donc, en fait, ce qui devrait se passer peut-être cette année, c'est pas la première fois, ça s'est déjà passé.
C'était Gilbert Gress, l'entraîneur
d'un président. Non, c'était pas encore Gilbert Gress à l'époque.
non, il n'était pas là.
Merci Philippe Piat. Merci beaucoup.
Merci Philippe.
À bientôt.
Merci Philippe. Et on va s'adhérer ce soir. On va réadhérer,
puisque vous le voulez dire en l'occurrence. Faut quand même rappeler un truc pour ceux qui ne suivent pas ça. Les footballeurs sont la profession en France la plus syndiquée. Puisque je crois que c'est 97% des footeurs en Ligue 1 et en Ligue 2 qui sont adhérents de l'UNFP, ce qui dans aucune autre profession n'est le cas. Enfin, je veux dire 97%,
c'est énorme. Je veux dire que tu galères tous les ans pour que les mecs adhèrent dans un vestiaire.
Putain, ouais, aujourd'hui ça se fait plus facilement manger.
Mais à notre époque, avec Pierre.
Je dis ça parce qu'il faut quand même savoir que quand t'as des carrières courtes comme ceux de footballeur, derrière la carrière, un gars qui arrête le foot à 30 ans, l'UNFP propose des formations pour la reconversion, propose de faire des investissements. Il y a un vrai accompagnement, quoi. Je veux dire,
il y a pendant la carrière aussi, Gilbert. Parce que nous, en général, on s'occupe des joueurs qu'on voit et pour qui se passe tout.
les choses se passent bien, mais c'est un, il y a un vrai suivi de pour les joueurs qui, par exemple, d'un seul coup se retrouvent en fin de contrat et n'ont plus de club. Il y a des, chaque été, il y a des préparations pour tous les joueurs qui sont sans contrat, pour qu'au mois de juillet, au mois d'août, et ça continue pendant l'année pour ceux qui malheureusement n'ont pas trouvé de club. Il y a des stages de préparation très sérieux avec des matchs amicaux contre des équipes de Ligue 2, de Ligue 1. Enfin voilà, c'est un vrai syndicat qui représente ces joueurs, le seul bémol que je mets, c'est que
ils veulent pas toujours se mettre défendre à un max les joueurs et se mettre trop à dos les clubs, tu vois. Quand il y a des petits problèmes en termes de contrat, quand t'as des joueurs qui sont mis à l'écart des groupes, comme ça arrive.
Par exemple, les mecs dans les lofts, l'UNFP les défend pas trop, tu veux dire?
Ils ont du mal.
Il y a une tolérance, Il y a une tolérance au début de saison, effectivement, pendant les stages. Après, en général, ils montent quand même au créneau et ça dure pas très longtemps. D'ailleurs, les clubs, si tu fais attention, les clubs aujourd'hui, il y a une tolérance pour les deux premières semaines ou les trois premières semaines de reprise. Après, les clubs évitent de faire ces lofts et de pas offrir les bonnes conditions d'entraînement aux joueurs. Ça c'est un peu à notre époque, c'est vrai. T'as raison, ça existait. Ouais.
Dans quelques instants, on change de sujet. Moi, je retiendrai donc de Philippe Piasse qui nous dit, annonce en début de semaine prochaine, vraisemblablement, d'une action collective menée par le football français, donc qui est en discussion actuellement entre l'UNFP, les représentants des joueurs et les clubs. C'est important, puisqu'effectivement, nous, depuis plusieurs jours, dans l'after, on se dit, mais que font les clubs français et que font les joueurs français, en l'occurrence, alors que dans pas mal d'autres pays, il y a des annonces qui sont faites, parfois suivies d'effets ou pas, comme on l'a précisé. Enfin, au moins, il y a des annonces. À suivre, donc. Dans quelques instants, on part à Bordeaux. Les gars, pour compléter notre débat de l'autre soir entre le PSG, entre Lyon et Bordeaux, vous savez, il y a 10 ans, cette fameuse demi-finale de quart de finale de Ligue des Champions, on n'a pas été tout à fait complet sur Bordeaux et on nous l'a rappelé. Donc, comme l'after, évidemment, reconnaît ses erreurs, on va être complet dans quelques instants.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Pas mal de réactions après l'interview de Philippe Pia, messieurs Ducrot, Roten et Riolo, vous qui êtes là. Et bien sûr, on nous dit quand même les footeux français devraient. Alors en fait, il y a ce qui revient le plus souvent sur les hashtags RMC Live ou sur Direct Studio, c'est les footeux ils gagnent beaucoup d'argent, c'est à eux de faire l'effort en premier. Alors bon, ça peut être sujet à débat, c'est-à-dire que les footeux ils cotisent comme les autres. Je veux dire, ils ont les mêmes droits aussi que les salariés lambda qui gagnent le SMIC. Hein. C'est bon, tu cotises quand t'es footballeur. Bon,
après, tu peux faire preuve de solidarité aussi et dans des clubs quand tu connais le salaire en moyenne de l'administration, des administratifs, bien sûr que tu peux aller dans leur sens et pour avoir une perte de salaire. De toute façon, ils l'ont déjà avec ce chômage partiel. Derrière, il y a plein de trucs qui seront mis en place pour que ces gens-là s'en sortent au mieux. Je pense que les joueurs, la plupart sont concernés par ça, quoi. Tu vois, ils sont pas là à se dire, moi j'ai un salaire de 100 000 euros, je perds déjà 20% de ce salaire-là approximativement avec le chômage partiel, j'en ai rien à foutre du reste. Je pense, il y a aucun joueur qui peut réagir comme ça, je pense.
Bon allez, fin du débat là-dessus. Il y a eu quelques tweets démagos, mais je ne vais pas les lire évidemment. Par contre, j'en ai quelques-uns de sympas que j'ai envie de lire. J'ai par exemple Arbitre 601. Peut-être un arbitre qui matricule 601, je ne sais pas. Il nous dit, avant j'aimais l'after, mais maintenant je l'aime encore plus. Tous les jours je vous écoute en replay grâce à vos débats. Le temps passe plus vite. Continuez de nous divertir en ces temps difficiles. On reçoit beaucoup de messages de ce type-là. Je remercie tout le monde, bien sûr. Je rappelle qu'on est là, évidemment.
On remercie tout le monde et on les remercie. Merci eux aussi de nous écouter parce que nous, au début, quand on a commencé cette petite aventure chacun chez nous, très franchement, on était dans le brouillard. On ne savait pas trop où on allait. Hein. Et finalement, ça se passe bien. On est content et les gens sont là et finalement ça leur fait plaisir à eux, mais ça nous fait plaisir à nous aussi, hein, parce que sinon ce serait dur,
ouais, hein, déjà, partiel, sinon, pour personne chômage partiel, allez hop 84 de ton net, 84% de ton net, pas plus,
absolument mon vieux, absolument.
Je t'avoue qu'avant qu'il y ait des décisions de chômage partiel qui soient prises, on s'est jamais posé la question d'arrêter, en fait. On voulait pas, hein, donc
oui, mais la question, j'ai bien, c'est pas
moi, je remercie RMC qui nous a permis de continuer.
Absolument, mais moi j'ai pas, à un moment j'ai cru que ça allait s'imposer à nous de presque de force, quoi, tu vois, parce qu'il y en a d'autres qui ont arrêté, et après évidemment quand on nous a dit, j'ai bien sûr qu'on est content, même à la maison, même l'autre dans sa cuisine, l'autre là et moi là. Et oui, évidemment qu'on était super content, mais au début, c'était pas complètement acquis.
On a un privilège, mais
j'ai cru
qu'on
allait arrêter. Ouais. Hein. J'ai cru qu'on nous dirait, bon, bah, les amis, tant pis. Hein.
Alors, par contre, il y a pas mal de messages aussi assez réguliers depuis quelques jours qui nous disent, mais que fout Pierre Ducrot dans sa cuisine? Donc, effectivement, ça, c'est un mystère pour tout le monde.
J'ai aucun problème.
Il a 25 mètres de couloir.
Non, mais Jérôme, tu sais très bien pourquoi il y est. Tu sais très bien pourquoi il y est. Pourquoi il a choisi la cuisine? Parce que c'est plus près du frigo.
La cuisine n'est pas plus près du frigo puisque le frigo est dans la cuisine.
Non, mais toi, comme ça, t'es plus près du frigo pour tes petits encas. Et pareil que tu raffoles des encas.
Pas du tout, Daniel.
On m'a dit que Pierre Ducrot, c'est comme dans Kaamelott. Tu sais, quand tu la nuit, les mecs ils se réveillent pour aller bouffer. Là,
c'est ça. Bah, j'ai jamais regardé Kaamelott.
T'as jamais regardé Kaamelott? C'est légendaire, Kaamelott, voyons.
Ouais, mais j'ai jamais accroché.
Ah, moi,
on m'a dit que t'avais chopé le frigo.
Le frigo virus. J'ai déjà fait une fois. Quand je me suis installé ici dans cet appartement, la prise pour la box était dans la cuisine. Et ça m'allait très, très bien. Alors, mis à part. Pour l'after, où effectivement, je suis.
Mais comment tu fais quand t'es dans le salon? Tu vas à la cuisine pour changer les chaînes?
Alors, dans mon salon, j'ai, parce qu'il y a des gens sur Twitter qui m'ont pris pour plus bête que je ne suis.
Bah oui, j'ai vu.
Proposé des prises, machin, des trucs. Mais déjà, les gars, vous inquiétez pas, ma télé, elle est branchée sur ce genre de truc et elle marche avec ma box à distance, c'est pas un problème. Sauf que moi, là, j'ai ma box ici, j'ai branché mon petit appareil ici, je suis sur ma chaise dans ma cuisine, je suis très très bien ici. Et je compte ne pas faire l'after pendant 3 ans dans ma cuisine. Je compte bien revenir en plateau. Donc pour l'instant, ça me dérange pas d'être ici. Voilà.
J'ai Greg qui me dit, mais cherchez pas pourquoi il est dans sa cuisine. C'est parce que Ducrot, il se décarcasse.
Ça va aller presque trop simple.
On te l'a déjà fait 1000 fois, donc c'est plus drôle.
Non, mais que tout le monde se rassure, moi je suis très bien dans ma cuisine. Quoi.
Très bien. Non, mais c'est vrai que ça a été un sujet de discussion, j'ai même vu que ça avait.
Bon, on en cherche un des sujets de discussion.
Non, non, on en a plein, t'inquiète. Alors, 2-3 infos encore. Vous dire que le Betis Séville a réduit les salaires de ses joueurs. Donc là, pareil, une annonce faite aujourd'hui. Les joueurs verront leur salaire réduit de 15% si la compète est définitivement arrêtée et pourcentage moindre si la Liga peut arriver à son terme, dit le club. Et puis alors, la Liga espagnole a eu une initiative ces dernières heures qui a très bien fonctionné. La Liga espagnole a organisé un concert en ligne, donc organisé par la Liga. Et ce concert en fait était l'occasion de donner de l'argent. Alors il y a plein d'artistes espagnols qui se sont mobilisés, donc qui ont fait des concerts de chez eux, comme ça se fait aujourd'hui aussi en France régulièrement. Vous savez que Patrick Bruel donne un concert tous les jours à 18h.
C'est vrai.
Si vous voulez vous connecter.
J'ignorais.
Voilà. Et donc, le montant récolté permettra d'acheter 115 appareils respiratoires. Donc, c'est pas pour les clubs, hein, c'est voilà, pour faire des dons que la Ligue espagnole a organisé cette initiative. Donc, des appareils respiratoires, des masques, plus d'un million de masques, donc, qui vont être achetés grâce à l'argent récolté lors de ce concert en ligne. Voilà, cette initiative espagnole qui pourrait peut-être, pourquoi pas, donner des idées en France. Bordeaux, dans quelques secondes, parce qu'on n'arrive pas à joindre Julien Metz, qui, comme d'habitude, est au bout du monde. On va démarrer notre.
Il est à Djibouti, non?
Oui, c'est un peu le bout du monde, quand même, Djibouti.
C'est vrai.
On va donc démarrer maintenant, dans moins de 30 ans, les gars. On a Achille.
Mais on s'adapte.
On a Achille qui est là avec nous. Alors, je rappelle le concept. En fait, il y a une semaine, à l'occasion de la disparition de Michel Hidalgo, on s'est tous remémoré l'Euro 84, Séville 82. Voilà, des souvenirs qui correspondent à peu près à notre génération, à nous, quoi, les gens de l'after, Daniel, Pierre, Jérôme. Et on s'est pris plein de remarques de plus jeunes en disant « Ouais, mais et nous, alors et nos souvenirs à nous. » Là, Daniel, tu as dit « Ouais, mais les souvenirs des jeunes, c'est pas pareil parce qu'il y a plus de matchs, c'est différent et tout. » Les jeunes ont dit « Oh, pas du tout, c'est les mêmes, il n'y a pas de raison. » Bon, ils ont peut-être justement raison, on va voir. On va accueillir Achille au 32-16 qui est là. Salut Achille.
Bonjour.
Oula, mais Achille, t'as quel âge toi?
Achille, t'es tout petit. Bonjour,
t'as 13 ans.
Oh là là. Magnifique.
Et t'écoutes l'after tous les soirs?
Ouais, très très régulièrement.
Mais comment
dès que je peux, je l'écoute.
Comment t'as connu l'after?
Bah, je connaissais déjà RMC depuis assez longtemps et puis bah, un soir j'avais du mal à dormir et j'écoutais l'after et j'ai accroché, donc bah, j'écoute depuis un an déjà.
Excellent. Et t'es supporter, t'es supporter
c'est
de
même
quel
pas
club
quelqu'un de...
Bah de quand?
Bah, comme si c'était évident, Achille, on pouvait pas deviner, nous.
De quand? De quand? T'es con, quoi, Gilbert?
Ah, c'est dommage, il a jamais vu jouer Jérôme Rotten à Caen.
Ouais, c'est dommage.
C'est peut-être pour ça que tu es encore supporter de Caen.
Je vais t'envoyer des cassettes parce que il y avait pas de DVD à l'époque, c'était des cassettes.
Ah. Faut que tu ailles sur YouTube, tu tapes Jérôme Rotten Stade Malherbe, peut-être qu'il y aura d'autres trucs. Mais alors du coup, Achille, toi qui as 13 ans, ton premier souvenir qui t'a fait donner de l'émotion, c'est quoi?
C'est un match de Caen contre Dijon, pas non plus un grand match, mais c'était le premier match à Dornano que je suis allé voir, donc c'est quand même le premier match que je retiens.
Ah oui, c'est le premier match où tu es allé au stade. Bah oui, ça, oui. Le premier match, tout le monde s'en souvient.
Oui.
C'est le match en lui-même qui t'a plu, Achille?
Ouais,
c'est le match en lui-même ou c'est le contexte, c'est le,
non,
le stade?
C'est le contexte, parce que le match, je me souviens pas du tout, ça devait être un vieux score, je pense.
Ouais. C'était en quelle année?
Je crois que c'était 2012.
Ouais, c'était d'accord. Patrice Garand, l'entraîneur, donc ouais, c'est un vieux sport. Ouais.
Mais raconte, Achille, plutôt comment on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui doivent être pour des clubs un petit peu plus gros. Toi, tu es normand, tu es de Caen, et donc qui t'a transmis ce supporterisme de cette équipe qui est en Ligue 2? C'est ton papa qui était pour Caen? Comment ça s'est passé?
Papa.
D'accord.
Donc il t'a emmené au stade et il t'a dit, Achille, je te préviens, nous on est pour Caen.
Il est pas supporter, mais il est quand même pour Caen et il les suit tout le temps. Et puis du coup le premier match que je suis allé voir, c'était super. Et du coup on est allé voir le match et dès ce premier match je me suis dit je vais être supporter de Caen, même si c'est pas un gros club, c'est pas tous les jours.
C'est vrai.
J'adore.
Tu dois avoir beaucoup de copains parce que dans la région autour, on sait que la Normandie vers Caen, il y a beaucoup de supporters du PSG, non, autour de toi, dans
oui,
tes potes à l'école.
Beaucoup.
Ouais, bah oui. Et ça t'a pas donné envie de changer ou de
non. Non. Après, par exemple, cette année ils sont descendus en Ligue. L'année dernière ils sont descendus en Ligue 2. J'ai pleuré. Parce que contre Bordeaux en Suisse, vous allez parler de Bordeaux là bientôt. Et j'étais un peu dégoûtée. Donc voilà.
Et plus globalement,
si t'as un match à retenir autre que Caen, hein, bien sûr, mais sur des matchs internationaux, l'équipe de France.
Ton plus grand souvenir, quoi.
C'est quoi ton plus grand souvenir?
Ce que j'ai vu à la télé, le plus gros match, le match qui m'a le plus ému, c'est celui France-Argentine de la Coupe du Monde, parce que franchement, il y avait beaucoup de rebondissements.
Ouais, super. Ouais, celui-là, il va marquer pas mal de jeunes, c'est vrai.
Sinon, France-Croatie, parce que quand même,
c'est la finale.
Le match de la finale.
Ouais. Écoute, Achille, bravo.
Bravo, Achille.
Je peux juste rafraîchir la mémoire d'Achille. J'ai retrouvé le Caen Dijon, je pense, dont tu parles, doublé de Duhamel de partout quand même. Il y a eu des buts.
Oh la vache.
Tu te rappelles pas d'un doublé de Mathieu Duhamel?
Mathieu Duhamel, j'aimais bien cet attaquant.
C'est
un bon attaquant de Ligue 2. C'était pas mal du tout, Mathieu Duhamel.
Si c'est celui-là, en 2012 en tout cas, Caen Dijon de partout.
D'accord.
Daniel, Achille, j'aimerais bien que tu parles de l'after à tous tes potes au collège.
D'accord.
Tu leur dis, écoutez l'after tous les soirs.
Gilbert qui fait du recrutement.
Attends, c'est important, Achille. Merci à toi, en tout cas. C'est super que tu nous aies appelé.
Je peux vous poser deux questions?
Ah bah oui, vas-y.
Vas-y.
Est-ce que je pourrais faire une dédicace?
Bien sûr.
Une question, mais vas-y quand même.
J'ai une dédicace à faire à Thomas, qui va se reconnaître, et à Lucu, qui va se reconnaître aussi.
Très bien.
Et puis, une deuxième, est-ce que vous croyez que vous pourrez m'offrir un t-shirt de l'after?
Évidemment. On va t'envoyer ça.
Oh, merci beaucoup.
Il y a Max qui va te reprendre au standard, il va s'en occuper, t'inquiète pas.
Merci beaucoup.
Salut, Achille.
Ça fait un grand plaisir de vous avoir appelé.
Eh ben, rappelle-nous quand tu veux. Hein.
À bientôt, Achille.
C'est le bienvenu, salut. Salut Achille. Et vous avez vu Daniel là qui essaie de le faire changer d'avis, qui dit ouais, il y a quand même des gars qui sont pour le PSG dans ton coin.
T'es malveillant, Gilbert, parce que justement c'était pour savoir comment on résistait quand on avait cet âge là à l'environnement et aux petits copains qui sont pour d'autres clubs et tout. Au contraire, c'est très intéressant de leur demander comment ils font pour résister.
Vous vous souvenez de votre premier match au stade, vous, le tout premier quand vous étiez gamin? Moi, je m'en souviens très très bien.
Moi, je m'en souviens pas.
Oui, oui.
Moi, je m'en souviens très très bien. Strasbourg-Bastille en 1981. Avec Raymond Domenech, titulaire à Strasbourg.
T'avais quel âge?
Bah, 80, j'avais 6 ans.
6 ans et tu te souviens?
Je me souviens très bien, exactement. 2-1 pour Strasbourg, non, je me souviens très très bien.
Bravo.
Bah, écoute, écoute, toi, tu te souviens pas, toi?
6 mois, ouais.
Non, du moins le tout premier, je m'en souviens pas parce que mon père m'a raconté, c'était la finale, comme je vous l'avais dit, du Paris Saint-Germain, finale de Coupe de France en 82.
T'avais quel âge là? 5 ans.
J'avais ouais, à peine 5 ans. Compliqué. Et puis derrière, non.
Ça,
derrière,
ça sent le plan où ta mère a dû dire attends, tu vas pas au match parce qu'il y a le gamin. Et les gars, je l'emmène.
Et ben voilà, exactement. Ouais. Oh, ta gueule, je l'emmène. Allez.
Pierre, tu te souviens, toi?
Non, pas du tout. C'est forcément au parc, le premier match pro. Mais je me souviens pas du tout. Je crois, avec mon petit club de Saint-Ouen-l'Aumône. Et je crois qu'ils nous avaient emmenés. Je devais être en poussin ou en pupille. Mais je me rappelle pas du match, de quel match c'était.
Quand on est gamin à cet âge-là, on se souvient autant des lumières du stade, de l'ambiance, les gens qui se lèvent sur les buts que du match, en fait.
Et c'est bien pour ça que je pense qu'on oublie le match en question, tu vois. Est-ce que c'était un PSG Metz ou un PSG Lille ou un PSG, je ne sais plus, je ne sais plus. Je sais que c'était avec mon petit club où on avait des places en tant que club partenaire. Et je sais pas, je dirais que j'avais 9-10 ans, mais je me souviens plus.
Et toi, Daniel?
Ça doit être avec le club de foot là d'Oris. On était allé voir un match de l'équipe de France. Ça doit être un France sur ESS. Et il doit être, j'ai pas 10 ans, en 80, France sur ESS. Faudrait regarder
avec le maillot CCP là, c'est ça?
On va regarder.
Ouais. Il doit y avoir un France sur ESS au début des années 80. Donc il y a, je crois que Platini doit jouer, évidemment. Ouais.
Ça doit être
celui-là.
Regardez, je regarde
après,
ça.
Sinon, celui d'après, sûr, c'est un PSG Saint-Etienne. Mais. Ouais.
Dans quelques instants, on est de retour. On continue le débat avec vous. Il y a David, Valentin et Flavien qui nous attendent déjà. Et puis, on parlera de Bordeaux comme promu quand on aurait réussi à joindre Julien Hamet qui voulait intervenir. A tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot.